With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Vous avez 5 minutes ? Daphné Curiana Galizia était blogueuse à Malte, mais une blogueuse un peu particulière, puisqu'elle était à l'origine de nombreuses révélations sur la corruption dans son pays, dans le cadre notamment des Panama Papers, gigantesque scandale financier mondial. Elle est morte lundi dans l'explosion de sa voiture. Un assassinat politique qui nous rappelle qu'on peut mourir pour l'information sur le sol européen. Journaliste au Monde, Jean-Baptiste Chastan a travaillé sur les Panama Papers et il l'avait rencontré à Malte l'an dernier. Il se souvient d'une personnalité attachante et rappelle l'importance de poursuivre son enquête désormais. Bonjour Jean-Baptiste Chastan.
Bonjour.
Vous aviez travaillé avec Daphné Caruana Galizia, c'était dans le cadre des Panama Papers ?
Oui, j'avais rencontré Daphné Caruana Galizia un an après la publication des Panama Papers, puisque à la suite de la publication des Panama Papers à Malte, il y avait eu un gigantesque scandale parce que plusieurs proches du Premier ministre maltais Joseph Muscat étaient impliqués dans les Panama Papers. Et dans les suites, le Premier ministre avait décidé de convoquer des élections anticipées en mai de cette année. Et elle avait pris parti dans la campagne, puisque en tant que militante anticorruption, elle avait notamment pris pour cible Joseph Muscat et ses proches et appelé à faire battre le Premier ministre. On n'a pas directement travaillé avec elle au Monde parce qu'elle ne fait pas formellement partie de l'ICIJ, le consortium international des journalistes d'investigation, mais son fils y travaille et du coup elle avait accès à certaines informations et elle avait pu sur son blog notamment utiliser ces informations pour investiguer sur la corruption à Malte et notamment sur les proches du Premier ministre qui avaient des comptes dans des sociétés offshore.
Comment elle travaillait de son côté si elle faisait pas partie du consortium ? Comment elle avait accès aux informations qui pouvaient l'intéresser ?
Je ne sais pas exactement comment elle avait accès aux informations, mais je pense que ça passait notamment par son fils qui travaille au consortium. Donc elle avait accès à ces informations. Et par ailleurs, elle, sur la base de ces informations, menait ses propres investigations. Parce que les sources des Panama Papers sont une partie des sources utilisables, mais bien sûr on peut utiliser d'autres sources à disposition des journalistes, que ce soit des sources officielles ou non, qui permettent de creuser encore plus les révélations des Panama Papers. Et c'est ce qu'elle a fait en poursuivant ses propres investigations et en faisant de nouvelles révélations qui allaient au-delà des Panama Papers.
Vous l'aviez rencontrée, vous avez discuté avec elle, c'était quel genre de personnalité ?
Alors c'était une personnalité assez étonnante, puisque quand on la voyait, c'était une mère de famille, on pourrait dire assez bourgeoise, assez chic. Moi je me rappelle quand je l'ai interviewée, elle préparait le mariage de son fils, avec une Française d'ailleurs, et c'était dans un des plus beaux lieux du centre de la Valette, donc ce qui montrait que sa famille était assez riche. C'est vrai que c'est pas forcément le profil de ce qu'on attend du journaliste d'investigation classique où on imagine le baroudeur prêt à prendre à tous les risques. Elle était plutôt une personnalité sympathique mais assez bourgeoise et chic, qui était une vraie célébrité à Malte. C'est vrai, quand on marchait avec elle dans la rue, les gens l'arrêtaient. Alors moi, elle me racontait que parfois c'était les gens qui l'arrêtaient pour qu'elle se fasse insulter ou pour l'insulter ou même parfois pour lui cracher dessus, parce que Malte est une île très très divisée et comme elle était considérée comme anti-pouvoir à l'époque pendant la campagne, les gens qui soutenaient le Premier ministre social-démocrate qui est toujours au pouvoir à Malte la détestaient très fortement.
Elle se sentait menacée ?
Clairement, elle m'avait fait état de plusieurs menaces dans sa carrière. Elle avait déjà eu des tentatives d'incendie contre sa maison dont elle était propriétaire là, et dont elle est morte en sortant de chez elle. Mais déjà, ça, c'était il y a une dizaine d'années. Donc, tout au long de sa carrière, elle avait l'habitude de subir des menaces. Récemment, apparemment, elle avait encore nouveau signalé à la police qu'elle avait reçu des menaces. C'est vrai que les menaces de mort faisaient partie de son travail. Elle disait ne pas les craindre et que vouloir continuer coûte que coûte. Malheureusement, elles étaient sérieuses, comme on vient de s'en rendre compte.
Et comment on peut imaginer de telles représailles sur des blogueurs, des journalistes qui font un travail à caractère journalistique et qui révèlent des affaires qui sont pour le bien commun?
Même à Malte, où il y a certes une tradition de violence politique qui était assez forte jusqu'en les années 80, ça a été un vrai choc parce que depuis les années 80, la situation s'était calmée. Je pense, moi, tous les gens à qui j'ai parlé à Malte depuis hier sont tous sous le choc. Ils n'imaginent pas qu'un tel acte ait pu se produire à Malte, où on pensait certes que l'île est très divisée et que l'ambiance est parfois très tendue à Malte, mais pas qu'on pouvait en arriver à ces extrémités-là. Voilà, mais après c'est vrai que certains messages qui ont été postés sur les réseaux sociaux, alors hier dans un océan de dommages à Daphne Caruana Galizia, il y a aussi eu des messages de haine qui ont été pointés par son fils. Ce matin, il a mis un message sur Facebook en racontant notamment qu'un officier de police proche du pouvoir a aujourd'hui, enfin hier soir, posté sur Facebook tout le monde mérite ce qu'il de tout le monde reçoit ce qu'il mérite, sale bouse, je me sens heureux. Apparemment, c'était clairement en référence à l'assassinat de Daphne Caruana Galizia. Donc on voit que même à Malte, il y a certaines personnes qui se sont réjouies de cet assassinat politique hier.
Et est-ce que ça montre aussi l'importance du travail que vous avez fait, alors vous au Monde et elle peut-être plus de son côté, mais autour des Panama Papers, c'est du genre de scandale que ça révèle?
C'est sûr que ça montre qu'elle dérangeait à Malte, clairement. Ces révélations posaient des gros problèmes aux politiques, mais des deux bords, hein, d'ailleurs, parce que récemment, elle avait aussi pris pour cible le nouveau chef de l'opposition. Clairement, elle faisait peur à certains intérêts à Malte. La question, c'est lesquels. Mais ça montre que son travail était essentiel, parce que si elle est prise pour cible, c'est qu'elle dérangeait vraiment des intérêts. Après, on pense jamais que ça puisse justifier quoi que ce soit à des actes d'une telle extrémité. Et par ailleurs, c'est vrai que le pouvoir social-démocrate a largement gagné les élections à Malte début juin. Donc malgré toutes ces révélations, on se rend compte qu'à Malte, mais comme ailleurs en Europe, hein, la corruption ne suffit pas à faire perdre les élections. Et forcément, en tant que journaliste, on se pose toujours ces questions de quel est le sens de notre métier quand on voit de tels actes qui conduisent à la mort de certains de nos consoeurs et de confrères. C'est vraiment choquant. Ouais.
Et comment on fait pour que son travail et vos enquêtes ne s'arrêtent pas là, ne s'arrêtent pas à sa mort?
Là, j'ai pas l'impression que son fils ait l'intention d'arrêter de travailler. Notre partenaire du Times of Malta que j'ai eu hier était aussi très choqué. Donc pas l'intention visiblement d'arrêter de travailler avec la ICIJ. Donc le seule manière de faire, c'est de continuer. Et elle n'aurait jamais abandonné s'il lui était arrivé. Si elle avait survécu, elle aurait probablement pas abandonné. Donc c'est sûr que la seule manière de rendre hommage à ses consoeurs ou confrères assassinés, c'est de continuer son travail.
Très bien. Merci pour votre témoignage.
De rien.
Binge audio.
2016, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.